quatrième temps de notre série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire, en nouvelle écoute, consacrée à la Révolution française. Aujourd'hui, la vie quotidienne sous la Révolution. Ce matin, grâce à des textes choisis par Anaïs Quien et lus par Nathalie Canoui, nous allons tenter de comprendre ce que fut la vie quotidienne sous la Révolution française. Car ce que rend possible la Révolution, c'est un nouveau rapport au temps, car c'est bien en faisant la Révolution qu'on devient révolutionnaire. Elle s'invente au quotidien, donc, cette Révolution, et c'est ce que nous raconte cette émission enregistrée le 16 décembre 2015 avec Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, l'historienne Déborah Cohen et l'historien Guillaume Mazot. Bonjour Anaïs Quien,
bonjour
Guillaume Mazot,
bonjour.
Et bonjour à vous Déborah Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer cette question de la vie quotidienne pendant la Révolution française. Et puisqu'on emploie ce terme de vie quotidienne, il faut peut-être d'abord rendre hommage et tirer notre chapeau à un historien qui vient tout juste de disparaître. Il s'appelle Jean-Paul Berthaud. Il avait été l'auteur justement d'un livre qui a compté dans cette question de la Révolution française, mais également de ses suites. Il avait travaillé sur la vie quotidienne des soldats, en particulier révolutionnaires. C'était, je crois, d'ailleurs sa thèse. Et puis ensuite, la vie quotidienne sous la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour les auditeurs qui ne l'auraient pas connu, Guillaume Mazot ?
Oui, c'est vraiment important de lui rendre hommage, parce que c'était à la fois quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et renouvelé complètement la vision de cette période-là. Il faisait pas complètement au départ partie du sérail, et je crois que ça l'a rendu aussi très très libre. Donc c'est quelqu'un qui a étudié vraiment l'armée, l'histoire des soldats de l'an 2, mais en dépoussiérant, en dépatrimonialisant un petit peu leur image. Et puis il a étudié aussi la presse, et en particulier la presse royaliste, ce qui n'était pas du tout une habitude chez les historiens de la Révolution française. Et c'est vrai, et il est moins connu pour ça, il a un grand grand travail de partage de son savoir, etc., notamment au moment du bicentenaire. Mmh. Il a donc écrit des ouvrages sur la vie quotidienne, ou c'était dans le journal pendant la Révolution française, ce qui était vraiment de l'écriture de l'histoire pour tout le monde, pour tous, de grande grande qualité. Donc on perd beaucoup en le perdant lui.
Déborah Cohen, un petit mot sur le travail de Jean-Paul Berthaud.
Oui, peut-être en le réinsérant dans notre question aujourd'hui sur le quotidien. Donc ça s'insère dans cette série d'Hachette.
La vie quotidienne, une collection disparue aujourd'hui, oui, voilà, qui a beaucoup compté pour les apprentis historiens comme moi il y a quelques dizaines d'années. Oui.
Alors, comme l'a dit Guillaume Mazot, en fait, lui, il avait essayé de déplacer les choses dans son travail. Mais ça fait partie de cette série qui était née dans les années 30 et qui était finalement née en même temps, mais autrement que les annales. Hein, c'est-à-dire toute cette tendance où on voit apparaître un souci de la vie quotidienne, avec deux mouvements qui n'ont rien à voir. Donc, cette série Hachette, mais quand même aussi pour Bloch, pour Fèvre, un intérêt pour la structure sociale profonde au détriment du politique. Mmh. Et ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, dans la question que vous posez, c'est d'arriver à penser le quotidien, donc comme non pas comme structure profonde, comme structure reprise ensuite par Braudel comme vie matérielle, routine, non immobilité finalement, le penser en même temps que la Révolution, c'est-à-dire le plus politique,
le mouvement. Exactement. Guillaume Mazot, d'ailleurs, vous avez participé comme historien à une remise en jeu, pourrait-on dire, pour la télévision de cette question de la vie quotidienne. C'était récemment sur
oui,
M6.
Je crois que c'est très important de faire ça aujourd'hui pour deux raisons. Parce que c'est important d'étudier l'histoire à petite échelle, au quotidien, pour mieux comprendre le passé. Et pour la Révolution, c'est compliqué. On en a une vision très, très familière, en apparence familière, etc. Et ce genre de point de vue permet, à mon avis, de dépoussiérer les choses. Et puis aussi, parce que dans un contexte où la vie politique se désagrège jour après jour, les historiens peuvent participer à déconstruire les discours, les instruments du passé, de l'histoire, les instrumentalisations de l'histoire, mais ils peuvent participer aussi à la construction de nouveaux récits et en partageant leur savoir. Je crois que c'est important de le faire par ces canaux-là. Alors la vie quotidienne, c'est un petit peu un piège parce que un événement comme la Révolution, qui est par définition s'inscrit dans une urgence, dans une accélération du temps, dans un rapport très très différent au temps quotidien. Eh bien, l'enracinement dans les habitudes, eh bien, justement, c'est une sorte de contradiction dans lesquelles les révolutionnaires et les gens qui vivent les révolutions en général sont complètement enchâssés et dont ils n'arrivent pas toujours à sortir.
Oui, parce que c'est comme la roue dans laquelle le hamster continue de tourner. Ça ne s'arrête jamais, cette révolution. C'est le principe même d'une révolution. Enfin, à un moment, elle finit par s'arrêter. Mais effectivement, les événements viennent concourir à changer le cours du temps, à changer les habitudes d'une certaine façon. Et comment, justement, recrée-t-on des nouvelles habitudes dans ce cadre révolutionnaire? C'est ce que nous allons voir, avec en particulier des textes que vous avez choisis, Anaïs Quien, et un premier de ces textes qui évoque peut-être cette question, justement, de la révolution en elle-même.
Oui, alors, donc, ce sera le seul texte, d'ailleurs, lu lors de cette émission, qui ne sera pas extrait du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, puisqu'il s'agit d'un texte que l'on doit à Brissot, qui sera guillotiné en 1793. Donc là, on se trouve à la veille de la révolution française, et Brissot aborde un thème qui va nous occuper, je pense, un petit peu aujourd'hui, qui est le bouleversement du sentiment de soi au sein de la société.
Lecture par Nathalie Canoui d'un extrait de ses mémoires.
Cette idée de révolution que je n'osais avouer roulait souvent dans ma tête. Je m'y donnais un des rôles principaux, comme il est bien naturel de le croire. L'histoire de Charles Ier et de Cromwell m'avait singulièrement frappée. Je me rappelais sans cesse ce dernier, déchirant dans son enfance le portrait de son roi, terminant sa carrière par le faire décapiter, et ne devant qu'à son génie le grand rôle qu'il avait joué dans la Révolution anglaise. Il ne me paraissait pas impossible de renouveler cette Révolution. Cependant, je l'avouerai, et ce trait ne me conciliera pas l'amitié de ces hommes qui font consister le patriotisme dans le cannibalisme, je ne faisais pas dans mon roman décapiter mon captif. Après une rude leçon, je le chassais à jamais du territoire français. On pense bien que je me gardais de communiquer ces rêves de mon imagination, souvent extravagante. Je sentais instinctivement qu'il y avait du vraisemblable dans l'avenir, mais que tout ce qui respirait autour de moi était trop loin de ce vraisemblable pour m'entendre. Les jeunes gens sont presque toujours ce que leurs livres les font. En lisant l'histoire de Chine, j'étais un conquérant tartare. Que prouvaient tous ces rêves? L'ardeur de mon imagination, ma soif de la guerre, le besoin de m'épandre autour de moi? Loin de moi, toutes les réputations me tourmentaient alors.
Comment faire le lien, justement, entre cet imaginaire qui est décrit par Brissot dans son texte et le quotidien? Et c'est d'ailleurs peut-être une des choses les plus intéressantes que ce mouvement et cette période révolutionnaire, que de voir ce qu'il y a dans la tête de ceux qui font la révolution et la mise en pratique de ce qu'ils ont imaginé pour être justement une révolution, Deborah Cohen.
Oui, c'est un très beau texte, je trouve, qui rend bien compte du fait que ce qui s'ouvre avec la Révolution, c'est un nouveau rapport au temps et à la possibilité, finalement, pour le temps de faire les identités, je crois, de la possibilité pour les sujets sociaux de devenir dans le temps. Et c'est vrai pour Brissot, là, qui voit la possibilité de devenir, de s'inventer une action, une identité dans l'histoire. Mais c'est vrai aussi pour des sujets plus ordinaires, pour des petites gens. Je pense qu'on va pouvoir suivre des individus, y compris de petites extractions sociales, pour voir comment toutes les potentialités, tous les désirs accumulés au 18e vont pouvoir devenir possibles.
Et se saisir de l'histoire. Anaïs Quien.
C'est peut-être aussi l'effet pervers de lire ce texte en ouverture d'émission, c'est qu'on donne l'impression que finalement tout le monde a un sentiment révolutionnaire à la veille de la Révolution. Et quelle est la notion même? Est-ce qu'on arrive à appréhender comment la notion de révolution s'incarne même dans l'esprit des différentes couches de la société à la veille de cette révolution? Une révolution, finalement, à la veille de la révolution, qu'est-ce que c'est, Deborah Cohen?
Alors,
dans l'esprit des gens, pas dans l'absolu, évidemment.
Oui, on a ce texte de prison. On pourrait trouver des textes de gens beaucoup plus simples. Je pense à Rossignol, qui a laissé des mémoires aussi, hein, qui est vraiment un artisan parisien, qui va devenir un grand général de la Révolution, et qui décrit la manière dont il se trouve pris dans des mouvements en octobre 89. Et donc, il comprend pas trop, et puis finalement, en discutant peu à peu, au quotidien, il se forme et il entre dans la Révolution. Et il y a toute une série d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Et évidemment, il faut parler du grand travail de Taquette, comment les députés sont devenus révolutionnaires, ou vraiment en entrant dans le quotidien de ces individus par des lettres qu'ils envoient quotidiennement à leur famille, à leur mandataire. Ils découvrent, ils se transforment.
En révolutionnaire.
En révolutionnaire.
Guillaume Mazot.
Avant une révolution, et avant celle de la fin du XVIIIe siècle, à la fois on attend une révolution, on attend un grand changement en tout cas, ça c'est sûr. En particulier depuis les années 1750, le mot révolution revient sans cesse, crise, ils sont souvent associés l'un à l'autre, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui. Mais évidemment, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire que les premiers surpris de faire la révolution, ce sont les révolutionnaires eux-mêmes. Et donc, il faut se méfier, évidemment, de toute cette impression que la révolution allait éclater, était jouée d'avance, était un horizon d'attente bien mûri, conscient, etc. Et d'abord, d'ailleurs, au départ, le mot révolution, lorsque la révolution éclate, il y a plein de mots pour la désigner. Il y a régénération, réformation, voire réforme, voire restauration. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, on les décrit comme des sortes de retour en arrière à des origines plus pures, une sorte d'âge d'or, etc. Donc, en fait, on ne sait pas bien ce que c'est. On n'en a aucune idée. Et puis aussi,
c'est en faisant qu'on devient, qu'on devient révolutionnaire.
Exactement. Avec des références dans la tête, le texte de Brissot nous montrait tout à l'heure qu'évidemment, ils ont des livres dans la tête, ils sont toute cette littérature des Lumières, hein, qui est évidemment très plurielle, hein, et très diverse. Mais évidemment, ces livres, ils font des outils pour des actions très très différentes. Hein. Et c'est tout le travail de Taquet, de Robert Danton, de Roger Chartier sur les origines culturelles de la Révolution qui montre que, eh bien, oui, cette littérature, cette histoire, ces précédents historiques, ce sont des recours et des outils, mais ils n'ont pas des actions évidemment préformées ni automatiques. Hein. C'est le grand mot de Rabaut Saint-Étienne. On s'appuie de l'histoire, c'est-à-dire on s'en inspire, mais l'histoire n'est pas notre code. C'est-à-dire que la Révolution, c'est aussi une invention en permanence au quotidien.
Anaïs Quin.
Et puis, il y a peut-être cet accident, cette rencontre un peu brutale entre ce qui est en cours avant la Révolution, ce temps long que vous avez décrit à l'instant, Guillaume Mazot, et ce que va proposer la Révolution, ce que va proposer collectivement la Révolution. Et notamment, je pense à la question de la politisation du peuple. Et je fais référence à un très bel article dont vous êtes l'auteur, qui décrit un peu la scène d'assassinat de Marat par Charlotte Corday et la réaction populaire au tour qui a évité finalement un moment de grande violence. Vous citez à un moment donné, il y a cette phrase très, on a l'impression d'être dans le préambule d'un polar. À ce moment précis, le plus probable est que Corday se fasse massacrer. Et elle ne se fait pas massacrer. Et là, vous faites une analyse de cette politisation de quartier dans ce faubourg Saint-Germain.
Oui, c'est vrai que ce rapport au quotidien, évidemment, il est différent selon les lieux, selon les géographies, qu'on habite dans une région en guerre ou pas. Hein. Là, vous citez 93, on est en guerre civile aussi. Et il dépend aussi des origines sociales et des situations sociales. Et là, on décrit donc une situation d'assassinat, un assassinat qui est pensé comme un attentat pour faire peur, hein, dans une situation où l'angoisse et les émotions sont à fleur de peau.
Et l'assassinat d'un homme réputé, aimé et protégé les gens de son quartier.
En son domicile, en son cœur même. Hein, ce qui montre que la plupart du temps, cette révolution-là, dans la guerre civile, elle est vécue comme une guerre civile, c'est-à-dire qu'elle est vécue aussi comme un moment d'incertitude absolue, encore plus incertaine qu'un événement, je dirais, ordinaire, même si on ne sait pas trop si ça existe, les événements ordinaires, et où, finalement, les événements s'amplifient, s'accélèrent, etc., et poussent à des réactions, finalement, souvent incontrôlables. C'est aussi ça, le quotidien d'une révolution, c'est la maximalisation des incertitudes.
Mais justement, dans ce cas-là, les réactions sont extrêmement contrôlées.
Oui, parce que la révolution entraîne, par les incertitudes qu'elle provoque, hein, c'est tout le problème de l'été 89, avec l'effondrement d'un État, des repères ordinaires qui reposaient finalement sur des schémas mentaux très de long terme, eh bien, ça crée, c'est ce qu'on a appelé la grande peur. C'est ce que je vais le faire après la grande peur, c'est-à-dire vraiment le rôle des émotions, de la peur, etc. Et face à ça, contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, il y a un grand désir d'ordre, en fait. C'est-à-dire de prise en charge de l'ordre, mais pour la première fois par les gens eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur vie au quotidien. C'est-à-dire comment assurer l'ordre ensemble, collectivement, pour éviter justement les débordements, pour éviter ces incertitudes-là, essayer de créer une nouvelle société par le bas dans de nouveaux collectifs qui sont en train de s'inventer.
Alors parmi les changements de la Révolution, et évidemment cette question judiciaire dont on parlait lundi avec Éric Demarie, et dans la question judiciaire, la question des peines, quelles sont les peines que l'on va infliger à ceux ou à celles qui entravent, par exemple, le cours de la Révolution. Vous avez choisi un premier texte qui nous raconte ce qui était en œuvre juste avant la Révolution. C'est le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier.
La peine des galères, évidemment, donc à la fin de ce siècle, à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution, on est toujours dans un cadre très très répressif. Ici, Louis-Sébastien Mercier décrit le départ aux galères.
Elle part deux fois par an, le 25 mai et le 10 septembre. Les galériens sont détenus au château de la Tournelle jusqu'à leur départ pour Toulon, Brest et Marseille. Les voilà pris et enchaînés, ces êtres féroces et violents qui ont troublé la société. Voyez-les, le châtiment n'a pas encore abattu leur audace. Ils ont prostitué au crime l'énergie de leur âme. Ils étaient nés robustes et leur force s'est tournée contre leurs concitoyens. Approchez, physionomistes, et voyez s'ils ne portaient pas sur leur front le présage du crime. Ces visages ne sont-ils pas durs? Oui, mais c'est l'oubli des vertus qui les a fait tels, car c'est le crime qui défigure les traits de l'homme. Le jour du départ, on les place dans de longues voitures. Une même chaîne les lie et les rive tous au chariot ambulant. 8 hommes de la maréchaussée conduisent ainsi 120 malfaiteurs. Ils partent, implorant le secours de leurs semblables, envers qui ils furent violents et injustes. Ils partent, et la conscience, ce juge indestructible, crie à plusieurs que leur supplice est doux et qu'ils ont échappé à la mort qu'ils avaient méritée. Je ne sais si je suis habile à lire sur les visages, mais il me semble voir un rayon de joie sur la plupart des fronts endurcis. Leur dernière sentence est une grâce, car ils chantent presque tous, et la sortie des prisons devient pour eux, du moins, une faveur. Plusieurs sont comme étonnés d'avoir conservé leur existence après avoir passé par les tribunaux, et ils la doivent sur toute chose à des magistrats humains. Sans eux, ils auraient monté sur l'échafaud.
Alors, la Révolution va changer, par exemple, ce régime des peines, cette procession des galériens dans les rues qui est décrite ici par Louis-Sébastien Mercier va s'interrompre pendant le processus révolutionnaire. C'est important, justement, que de rompre cette sorte de paysage urbain qui était celui qui était bouleversé par l'arrivée de temps en temps de chaînes de galériens. Est-ce que c'est important, justement, dans la société révolutionnaire, que d'imaginer que cette peine-là, qui avait une traduction presque physique dans l'espace urbain, disparaît? Déborah Cohen.
Certainement, c'est sans doute lié à toute une réflexion des révolutionnaires sur, en effet, ce que le quotidien peut avoir comme effet sur la formation du citoyen. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait aux citoyens que de voir quotidiennement ces visages...
Ces galériens,
voir l'effet de la violence d'État, ou de voir l'effet... voilà. Mais ceci étant, que des peines disparaissent, peut quand même laisser subsister d'autres formes de répression, et c'est très intéressant, ça, c'est justement sûr. quand on réfléchit à ce quotidien, de voir, comme l'a fait Clyde Plumosil, je pense, que la dépénalisation de la prostitution, donc,
suppression d'une peine, n'empêche pas sa mise en administration par l'appareil policier, son contrôle quotidien et sa répression au fond par le voisinage, par la police. Donc s'intéresser au quotidien, c'est voir aussi ça.
Guillaume Mazot.
Oui, c'est intéressant de voir que sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, il y a une vraie pédagogie quotidienne de la peur, de la terreur, de la violence d'État. On emploie le mot terreur hein, bien avant la dite terreur de 1793-94 pour désigner justement le gouvernement de la peur par lequel la monarchie dite absolue essaye de finalement de dissuader le crime, de réprimer le crime et de dominer aussi hein, les populations. Les révolutionnaires sont persuadés que l'environnement transforme les gens, peut transformer les gens. Ça, c'est l'influence de la philosophie sensualiste du XVIIIe siècle. Et de ce fait, les peines, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'on on cherche à nettoyer l'espace de l'exposition des corps, des criminels, etc., etc., tout en remplaçant quand même, en inventant de nouvelles peines. On utilise toujours le spectacle de la mort avec la guillotine, etc., mais qui est censé, évidemment, éviter tous ces supplices, le spectacle de la souffrance, tout en dissuadant les contre-révolutionnaires de menacer la révolution. Donc c'est une nouvelle forme de violence, elle se déplace. Hein. C'est un nouvel usage politique de la peur, on pourrait dire.
Toujours dans l'espace public.
Toujours dans l'espace public.
Anaïs Kien.
Oui, Deborah Cohen. Par contre, là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une proposition de la Révolution. Cette question de l'adaptation des peines et de la prise en compte du parcours individuel, c'est quelque chose qui s'est construit tout au long du XVIIIe siècle.
Bien sûr, qui s'inspire notamment des travaux de Beccari en Italie. C'est des choses qui ont été d'ailleurs mises en place bien avant en Italie et que la Révolution récupère.
Alors, parmi la question, au milieu de la question de la vie quotidienne, il y a donc cette exposition de la violence d'État, on en a parlé. Et puis, il y a des choses beaucoup plus traditionnelles, mais qui ont une importance extrêmement grande, à savoir la façon dont on se vêt, la façon dont on se nourrit, la façon dont on boit dans Paris. Un extrait du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, donc à la veille de la Révolution française. Comment boit-on dans Paris, et en particulier, quelle est l'eau que l'on boit dans cette grande ville qu'est Paris à l'époque ?
On achète l'eau à Paris. Les fontaines publiques sont si rares et si mal entretenues qu'on a recours à la rivière. Aucune maison bourgeoise n'est pourvue d'eau assez abondamment. 20 000 porteurs d'eau, du matin au soir, montent deux seaux pleins, depuis le premier jusqu'au septième étage, et quelquefois par-delà. La voie d'eau coûte 6 liards ou 2 sols. Quand le porteur d'eau est robuste, il fait environ 30 voyages par jour. Quand la rivière est trouble, on boit l'eau trouble. On ne sait trop ce qu'on avale, mais on boit toujours. L'eau de la Seine relâche l'estomac pour quiconque n'y est pas accoutumé. Les étrangers ne manquent presque jamais l'incommodité d'une petite diarrhée, mais ils l'éviteraient s'ils avaient la précaution de mettre une cuillerée de bon vinaigre blanc dans chaque chopine d'eau.
Alors, vie quotidienne, ça veut dire se nourrir et boire quotidiennement. Voilà un exemple de changement ou pas de la vie quotidienne sous la Révolution française. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces conditions matérielles, Guillaume Mazot ?
Alors en particulier dans la ville de Paris, la question de l'alimentation quand même se politise encore plus que d'habitude, parce que la Révolution, ça veut quand même dire des privations supplémentaires, des difficultés d'approvisionnement, surtout les convois qui viennent notamment de Normandie pendant la crise dite fédéraliste hein, en 93. Et donc ça veut dire que ça devient un enjeu politique quand même, la question de l'alimentation, et c'est elle qui impulse régulièrement des mouvements de protestation,
des émeutes,
et qui impulse aussi une dynamique de radicalisation, de radicalité et de mobilisation des sans-culottes, des militants parisiens de quartier, qui en quelque sorte d'ailleurs à la fois essayent. Parce que c'est aussi ça la révolution, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de la déception des résultats d'une révolution au quotidien. Hein.
C'est-à-dire que dans le court terme, la révolution change la vie.
Ben oui, elle change la vie, mais souvent elle change la vie dans le court terme. Elle apporte beaucoup d'espoir, Hein. Mais elle, au quotidien, dans les aspects les plus concrets, souvent elle complique les choses. Mmh. Et donc cette question de l'alimentation devient centrale et finalement engendre des déceptions et est monnayée d'ailleurs souvent par les sans-culottes ou les militants les plus radicaux, je pense aux enragés, pour monnayer le soutien populaire à la guerre, à la mobilisation. Et ça, ça engendre un rapport de tension permanent entre ces gens qui ont une conception quand même politique et collective de l'alimentation, qui doit être un partage, qui ne doit pas faire l'objet de spéculation ni d'enrichissement, et en même temps, les députés qui sont chargés de cet approvisionnement, qui n'y arrivent pas toujours, etc. Et voilà. Donc ça crée des tensions politiques.
Anaïs Quin.
Oui, puis on a en tête tous ces éléments symboliques. D'abord les boulangeries qui deviennent ouais. lieu d'émeute, et puis cet épisode mythologique de la Révolution française, qui est cette histoire de brioche, de ces femmes qui viennent demander du pain à Versailles
et la Constitution,
et qui se voient pardon.
Du pain et la Constitution.
Et la Constitution. Et la Constitution.
Le politique est toujours présent.
Mais d'ailleurs. Justement, on disait à l'instant, voilà, les choses ne changent pas instantanément. Et puis, si elles sont en cours de changement, elles se compliquent aussi parfois énormément. Et puis, il y a une question quand même centrale dans la Révolution française, c'est cette sortie de la féodalité. Comment tout à coup, dans les campagnes, sur un terroir, on voit disparaître cette féodalité. Quelles sont les reconfigurations du quotidien de quelqu'un qui travaille la terre, par exemple, sous la Révolution, Deborah Cohen?
Je ne suis pas trop spécialiste dans les campagnes. Ça, probablement, dans les campagnes, ça se fait quand même assez progressivement, parce que la disparition de la féodalité ne se fait pas immédiatement comme ça la nuit du 4 août. Mmh. Il est d'abord question de rachat, et puis...
De redistribution, d'une certaine façon.
De redistribution. Voilà. Mais ce qui est important, je pense, c'est que si on regarde justement au ras du sol, toutes ces questions très pratiques, très, très quotidiennes, elles deviennent aussi des lieux possibles de politisation. Parce que, justement, si ça ne se fait pas, on se réunit pour en discuter. C'est pas qu'on se réunit, on ne prend pas la décision de se réunir. On est là et on en parle. Vous parliez des émeutes devant les boulangeries. Il n'y a pas que les émeutes. Il y a aussi tout simplement le fait d'être dans la file, d'attendre pour donner son ticket. Et là, les rapports de police sont très clairs. Ce sont des lieux de parole, d'échange, jusqu'à l'émeute, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on en sait de cela? Comment peut-on savoir? Comment est-ce que c'est documenté pour l'historien ou pour l'historienne, ces questions de cette opinion publique en gestation, dans des queues de boulangerie, dans des discussions qu'on peut avoir dans les cafés ou dans les cabarets, etc. Qu'est-ce que l'on connaît de cela qui nous permette justement de mesurer comment le lien politique se crée en même temps que la vie quotidienne, les discussions sur la vie quotidienne, et que tout cela se trame ensemble, Guillaume Mazot?
Comme d'habitude, il faut tricher pour savoir ça, parce que beaucoup de gens du peuple ne savaient pas lire, ou souvent surtout pas écrire, et ils s'exprimaient peu ou indirectement. Donc évidemment, c'est des filtres, c'est-à-dire c'est des gens cultivés qui ont écrit pour eux. Et sur eux, et parfois contre eux. Donc c'est les archives judiciaires, évidemment, c'est les mémoires ou les journaux, c'est aussi les archives policières, mais évidemment, il y a plein de filtres quand on est historien. On est habitué, voilà. Mais donc, voilà, il faut contourner. Mais sur la question des campagnes, la grande question, c'est la réforme. Il n'y a pas eu de réforme agraire pendant la Révolution. Donc ça fait apparaître une nouvelle bourgeoisie, des nouveaux paysans, c'est les laboureurs qui gagnent la Révolution. En quelque sorte, ils peuvent permettre de racheter certaines terres qui sont mises en vente.
Qui ont les moyens de le faire.
Qui ont les moyens de le faire, puisque les émigrés, les biens nationaux aussi, les biens de l'Église qui sont mis en vente, c'est souvent les laboureurs, ceux qui avaient un peu d'argent déjà, qui peuvent les racheter. Donc eux en profitent. Et puis... les paysans les plus pauvres n'en profitent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de domination, et c'est vrai, envers
qui
les
changent.
Seigneurs, qui s'évanouissent.
Oui. Mais il y en a d'autres qui se créent.
Voilà, et qui sont de nature économique et sociale. Hein. C'est évidemment ce que soulignent les enragés, en particulier en 93, puis les babouvistes après, en disant qu'il n'y a pas eu de partage des terres, il n'y a pas eu de collectivisation, et qu'à une nouvelle aristocratie, c'est substitué une autre, celle de l'argent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des campagnes où il n'y a pas grand-chose qui change pendant la Révolution, ou en tout cas, les gens n'ont pas l'impression qui change grand chose. Je pense, il y a Laurent Brassard qui a fait une superbe thèse sur l'Aisne pendant la Révolution. Il montre que finalement, même pendant la période la plus radicale, la Révolution, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une politisation au quotidien, c'est une prise de parole, c'est quand même très important. Mais finalement, les effets concrets, ils sont pas non plus si importants que ça en ce qui concerne à la fois les violences, la redistribution économique et sociale.
Anaïs Kien.
C'est aussi un moment où, où on élabore une nouvelle constitution et où, où on doit définir les rôles, définir les agents qui habitent une société. C'est un moment où, où notamment, Guillaume Mazot, on s'attache à définir ce qui est un noble pour pouvoir définir finalement ce qui est l'ennemi de la révolution.
Oui.
Est-ce que par effet de contamination, on s'attache aussi tout à coup à définir également ce qu'est un pauvre, ce qu'est un homme du peuple, ce qu'est une femme du peuple, ce que doit être un membre du clergé, le rôle qu'il doit occuper dans la société. Est-ce que cet effet de définition finalement irrigue l'ensemble de la société et des éléments qui la composent?
Et oui, une révolution, c'est un changement total des catégories à travers lesquelles on pense la société et on se présente. En particulier, quand on rentre dans une période de tension politique et sociale, dans une guerre civile, la culture de la guerre civile, c'est vraiment la crise des identités par excellence. C'est-à-dire qu'il faut savoir se protéger, montrer qu'on est un bon patriote, et y compris surjouer cette identité-là dans l'espace public, avec des vêtements particuliers. Le sans-culotte, c'est ça. Hein. C'est-à-dire le sans-culotte, tout le monde n'était pas habillé en sans-culotte. C'était un costume très politique pour sursignifier, montrer
qu'on
le plus fort possible
qu'on était un bon révolutionnaire.
Voilà.
C'était sa carte du parti.
Oui, en quelque sorte. Voilà, et la taille des cocardes varie en fonction de ce qu'on avait envie de montrer, etc. Donc voilà, c'est un moment de recomposition complètement des identités. D'ailleurs, Jean-Luc Chappé a étudié les dictionnaires biographiques pour montrer à quel point on a besoin de savoir qui est qui pendant la Révolution. Hein. Et donc, oui, c'est la vaste des identités. Et puis sur le peuple, c'est... Déborah Cohen dans son livre. Voilà.
Justement, dans votre livre sur la nature du peuple, vous évoquez cette question de la constitution, de la création, pourrait-on dire, de cette catégorie de peuple et de populaire à ce moment, avant la Révolution même d'ailleurs.
Oui, du coup, ça se redéfinit véritablement pendant la Révolution. Et je pense, à partir de principes qui sont offerts un peu en pâture à ce peuple, je pense que vous parliez de ces redéfinitions. C'est important aussi de voir que le conflit entre le rapport entre le quotidien et la révolution, c'est quelque chose que les révolutionnaires eux-mêmes ont pensé, je pense, en opposant finalement deux principes. Le principe du gouvernement représentatif, où la majorité de la population, le peuple, n'aurait pas à participer au quotidien à la gestion des affaires publiques.
Alors que c'est un moment où finalement le peuple est amené à se définir lui-même, à se nommer lui-même et donc à s'identifier.
Tout à fait, mais au fond, il est enjoint de donner, remettre sa parole
à
des délégués et s'oppose évidemment à ce principe, le principe du gouvernement direct, où là le quotidien et révolution ne font qu'un et où le peuple, en particulier le peuple parisien, les districts, puis les sections parisiennes vont revendiquer pendant longtemps cette manière de laisser la révolution infuser le quotidien. Et on pourrait suivre aussi les rythmes différents de la révolution en fonction de ce rapport au quotidien, puisque quand Saint-Just dira la révolution est glacée, d'une certaine manière, elle est glacée parce que elle ne diffuse plus dans le quotidien.
Racontez-nous brièvement, Guillaume Mazot, l'épisode que vous racontez dans un livre collectif que je conseille à nos auditeurs sur l'iconoclasme, donc dans l'histoire en général. Ces tensions que vous évoquiez tout à l'heure entre classification, les nobles, les sans-culottes, ça peut donner des scènes de la vie quotidienne dans un Paris révolutionnaire où des sans-culottes passent à l'intérieur de ce Paris pour repérer les insignes de la noblesse qui existent encore sur les bâtiments privés, pour les faire disparaître, soit les bosser, soit les recouvrir de plâtre, pour éviter que la noblesse ne soit présente dans la ville, par exemple. Ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai découvert en vous lisant, que je ne connaissais pas du tout, qui est assez sur des scènes exceptionnelles. C'est-à-dire des gens qui discutent entre eux, nobles ayant des signes de la noblesse sur leur bâtiment, sans culotte dans la rue, qui disent vous devez enlever ce signe-là parce que la noblesse n'existe plus, par exemple. Et qu'expliquez-nous ça, Guillaume?
Ouais, c'est une question importante, ce qu'on appelle l'iconoclasme dans la Révolution. On a l'impression souvent que c'est souvent résumé à travers le terme de vandalisme. On a l'impression que les révolutionnaires, avec une idée, c'est détruire tout. On ne vide pas un monument sans dire voilà, ça c'est la faute des révolutionnaires. voilà, etc. Oubliant souvent d'ailleurs que c'est pendant la guerre de religion que beaucoup d'effacements, de destruction, etc. ont été opérés. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en juin 90, il y a les révolutionnaires prenant conscience que la ville et les campagnes au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est un espace quotidien, vous voyez, qui est constellé de signes de domination et qui sont pas, nous, pour nous aujourd'hui, ce serait un peu des signes un peu folkloriques, des blasons, des armoiries, des croix, des vierges à tous les coins de rue.
Mais ça, pour un révolutionnaire qui veut changer les représentations et les symboles, c'est une insulte permanente.
Mais oui, parce que comme ils sont persuadés, donc la philosophie sensualiste, ils sont persuadés que les signes du quotidien influencent votre esprit et votre manière de penser et atteignent la liberté de conscience, en fait. Et dans ce cas-là, il faut les enlever de l'espace public. Et ça, c'est une vraie volonté de séculariser, de laïciser déjà l'espace public, hein, même si le mot n'existe pas comme ça, évidemment. Et donc, quand on veut de construire un espace public qui n'existait pas avant, c'est-à-dire un espace où on peut s'exprimer, penser librement, c'est nouveau, on est en train de l'inventer, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ça se passe de manière assez concertée, c'est-à-dire par commune, on fait la liste, d'abord on envoie des agents de la voirie, donc c'est fonctionnaires qui font ça, pour faire la liste de tous les signes qui pourraient être éventuellement les signes d'une marque de domination. Sur toutes les fontaines qui avaient été payées par les aristocrates du quartier, eh bien, c'est considéré comme un signe de domination, puisque ça a signalé un territoire, vous êtes chez moi, hein, et c'est moi qui ai payé la fontaine, vous êtes devant ma porte, et voilà, vous êtes sur mon territoire, et ça on veut les enlever. Ça négocie. Alors c'est pas du tout fait dans la précipitation ni la violence. En tout cas au début, en période de guerre civile, ça va être différent évidemment. Mais au début, et ça prend du temps, il y a toute une correspondance, une administration, et puis on envoie on met des échafaudages pour gratter, garder. Par contre, c'est aussi là que s'invente le patrimoine, garder ce qu'on pense être plutôt de l'ornement.
Et donc on fait bien la différence. Utile, on imagine qu'une très fontaine, bien, oui. C'est utile à un quartier.
Ah aussi. Bien sûr, on n'enlève pas la fontaine. Et puis alors, donc c'est aussi la notion de patrimoine qui reste. Ben non. Ça, en fait, ça existe depuis le XIIIe siècle. Ça n'a plus aucune influence aujourd'hui sur les gens, donc on va le garder. Oui. Ça, c'est très important.
Et oui, le noble dit, écoutez, ça, on pourrait le garder parce que c'est un grand sculpteur qui l'a fait. Oui. Donc, c'est déjà la notion d'auteur et de patrimonialisation. Oui. Et puis, pendant ce temps-là, on dit, les révolutionnaires disent, oui, écoutez, on vous le laisse, on ne va pas le bosseler, mais vous mettez du plâtre dessus et comme ça, on ne le verra plus.
Ça s'appelle aussi une démocratie qui est en train de naître, hein, puisqu'on négocie, on discute. Et puis, c'est l'espace public et l'espace privé qui se réinventent. Parce qu'à ce moment-là, les agents de la voirie qui vont dans la rue pour dire ce qu'il faut garder ou enlever, eh bien, leur critère, c'est l'œil. Qu'est-ce qu'on voit quand on est dans la rue? Ce qu'on voit dans la rue, on supprime. Et ce qu'on voit pas, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux, en tout cas en 90. Hein. Après, ce sera autre chose.
Alors ça, c'est le jour, mais évidemment, la nuit, c'est autre chose. La ville se parcourt d'autres manières. Louis-Sébastien Mercier racontait justement cela, juste avant la Révolution française, dans un épisode du Tableau de Paris.
Les réverbères sont mal posés. Ces masses de feu forment, comme dit Milton, des ténèbres visibles. On devrait les appliquer contre la muraille. De loin, cette flamme rougeâtre blesse les yeux. De près, elle donne peu de lumière. Et dessous, vous êtes dans l'obscurité. Il manque donc à cette partie de la police ce degré de perfection qu'on doit porter dans ce qui intéresse l'ordre ou le bien public. Il serait à souhaiter d'ailleurs qu'on veillât avec plus de soin sur la conduite de ceux qui sont chargés de les allumer. Ils y mettent le moins d'huile possible. Et le plus souvent, dès 9 ou 10 heures du soir, il y en a la moitié d'éteint. Vous n'en apercevez souvent que la trace dans certaines rues. Vous en voyez un dans le lointain qui vous avertit de la friponnerie de l'allumeur. Il y a quelques années qu'on entreprit de numéroter les maisons. Mais comme beaucoup d'autres, cette besogne est restée à moitié chemin. Ces numéros avaient pourtant bien leur utilité, surtout dans les rues d'une certaine longueur. Ils guidaient les pas incertains et épargnaient bien des courses en pure perte aux malheureux piétons. En général, ces numéros sont mal placés, ne ressortent point assez et devraient être plus frappants, particulièrement pour la nuit.
Alors cette ville qu'on parcourt de jour, on la parcourt de nuit aussi, Deborah Cohen, et ce parcours de nuit est évidemment plus complexe, on y craint d'y être agressé. Et est-ce que ça change avec la Révolution, cette question de l'éclairage public, de la façon dont le monde urbain est transformé ou pas par la Révolution, Guillaume Mazot ou Deborah Cohen?
Non, ce qui change évidemment par rapport au texte de Mercier, là, ce qui est intéressant, c'est cette question du numéro des rues. Parce que pourquoi est-ce que le numéro des rues pose problème? Alors, parce qu'évidemment, quand on numérote les rues, on a toujours peur que ce soit l'occasion ensuite de nouveaux impôts, mais aussi parce qu'évidemment, numéroter de la même manière l'hôtel particulier d'un noble et numéroter ensuite à côté une maison ordinaire, c'est mettre à égalité dans l'espace des choses qui, évidemment, au 18e, doivent être hiérarchisées.
Ça, c'est important, cette question de la norme, les normes de poids, les normes, évidemment, de mesure, en général, dans le courant de la Révolution française, qui vont changer considérablement, là, la vie quotidienne, en l'occurrence, de tous les Français, toutes les Françaises, Guillaume Mazot.
Oui, c'est vraiment emblématique du rapport qu'entretient la Révolution avec le temps court et le temps long. Inventer de nouvelles normes. Il faut rappeler que sous l'Ancien Régime, évidemment, en France, il y avait beaucoup de normes différentes de poids, de mesure, et que les révolutionnaires, pour construire une nouvelle nation, c'est-à-dire une communauté de choix, hein, de gens qui s'associent, par choix, et bien évidemment, ils veulent normaliser, unifier, construire du commun, non seulement pour faciliter le commerce, hein, l'unité de poids et mesure, c'est basiquement aussi pour construire un marché, des marchés nationaux, mais c'est aussi pour construire une culture commune. C'est le français aussi, la lutte contre les patois, les langues régionales, etc. Pour revenir sur la question de la nuit, vraiment, c'est vraiment intéressant aussi. Le fantasme des révolutionnaires, c'est vraiment presque d'abolir la nuit, de
que la révolution soit présente en permanence
tout le temps,
à chaque heure.
Mais oui, parce que c'est terrifiant d'inventer, c'est exaltant et terrifiant d'inventer un monde en si peu de temps, quand on sait que on est engagé dans une urgence folle, c'est-à-dire qu'on dort beaucoup moins pendant la révolution. Alors évidemment là,
on a des témoignages de ça.
Oui, alors je pense Adrien Duquesnoy, qui est député de Franche-Comté. D'ailleurs, je vais publier son journal. Tiens, je fais une petite annonce au Mercure de France au printemps prochain. Mais il raconte à quel point on dort plus, surtout quand on est député. Alors attention, évidemment, ça dépend aussi de là où on habite, à quelle catégorie sociale on fait partie. Mais les difficultés de l'alimentation font que dans les périodes les plus dures, on est obligé de faire, et surtout les femmes, faire la queue devant les boulangeries la nuit, etc. Donc, pendant toutes les fêtes révolutionnaires, on a un rapport à la lumière, aux feux d'artifice, aux illuminations. Hein. Proclamer les valeurs de la révolution, c'est illuminer. C'est vraiment, voilà, lutter contre la nuit. Hein. La métaphore de la lumière, pour décrire ce siècle, le mouvement des encyclopédistes, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que le jour, avec les rapports aussi à l'électricité qui est en train de se... On a l'impression que cette énergie électrique peut transformer le monde. C'est aussi un rapport au jour et à la nuit qu'on a envie d'inverser.
Anaïs Quin.
Oui, Déborah Cohen, on vient d'évoquer la question des normes administratives, des normes métriques. Il y a une question aussi qui sera difficilement appréhendée par la Révolution, c'est la question des mœurs. Qu'est-ce qu'un bon citoyen, finalement ? Donc vous parlez d'une paternalisation de la société à ce moment-là. C'est le bon père qui est cité en permanence comme référence, notamment pour le recrutement de certains fonctionnaires. Mais la question des mœurs du bon citoyen vont occuper les débats et ne seront jamais véritablement décidées, fixées par la Révolution. Et on comprend bien pourquoi, c'est un peu compliqué de fixer à ce point-là le bon comportement.
Oui, d'une certaine manière, il faut distinguer selon les périodes. Je crois que le début de la Révolution est le moment d'une, on peut dire, d'une plus grande liberté. Je pense justement, Clyde Plumosil, on en parlait tout à l'heure, elle le montre sur la question de cette prostitution qui n'est plus criminalisée. Et ensuite, au moment de l'an 2, où il s'agit de forger, de former un bon citoyen, un citoyen moral, un citoyen conforme à l'idéal qu'on peut avoir de la Révolution, ce qui est nécessaire parce qu'il y a une angoisse. Si on ne transforme pas les habitudes...
Il faut stabiliser la Révolution.
Voilà, il faut stabiliser la Révolution. Il faut avoir des citoyens adéquats au régime qu'on veut avoir. Sinon, la Révolution risque d'en mourir. Alors, on se tourne vers une forme de volonté de moralisation.
C'est le travail d'Anne Virgu, par exemple, ces questions à la fois de la famille, du père, des relations entre le père, les enfants, le père et la femme, etc.
Alors
etc.
Ça sera plutôt... Plutôt en l'an 3.
C'est ça, c'est juste après.
Ensuite, en effet, on retrouve des formes de paternalisme et de re-hiérarchisation.
Guillaume Mazot.
Il y a des instruments pour ça qui sont inventés pendant la Révolution, c'est l'école. quand même, c'est les premiers plans d'éducation nationale, gratuite.
Même si ça change moins que ce qu'on on espérait. Mais en tout cas, que les révolutionnaires espéraient.
Mais
ils voulaient un véritable changement, ils ne parviennent pas à le mettre en œuvre au bout du compte.
Mais oui, mais c'est normal. Quand on veut transformer les habitudes, on ne peut pas le faire en 10 ans. Et donc, c'est de la contradiction absolue dans laquelle sont piégées à chaque fois les révolutions, en réalité. Hein. Mais donc, c'est le projet de Condorcet en 92, le projet de Félix Lepelletier de Saint-Fargeau en juillet 93, carrément de faire des sortes d'écoles, une par canton, avec les enfants de 5 à 12 ans, dans lesquels, finalement, les enfants de 5 à 12 ans seraient en internat, c'est-à-dire qu'ils seraient ôtés de leur famille pour construire des bons citoyens. Alors, évidemment, on voit
pupilles, c'est
tout le problème que ça peut en
de l'adoption par la nation.
On n'a pas confiance dans les familles.
Et l'adoption par la patrie, voilà. Et l'adoption par la nation, d'une certaine façon, des enfants, parce que c'est la meilleure façon, pense-t-on, de faire de bons citoyens pour demain.
C'est ça. Et en période de guerre civile et de guerre, évidemment, c'est difficile et de pénurie financière. On ne peut pas installer ces écoles.
Mais donc, on a un service militaire, par contre, qu'on arrive à installer très vite.
Assez tard, en fait. La conscription, c'est à la fin de la Révolution, complètement. Mais je reviens sur le rôle des femmes. Quand c'est pas à l'école, c'est les femmes. C'est aux femmes et aux mères de famille avant tout qu'on assigne le devoir de changer les mœurs. Et c'est d'ailleurs un des arguments pour les extraire de la vie publique et politique.
Oui, parce qu'il y a tout de même ce changement considérable. C'était, Jean-Clément Martin ou d'autres.
Fin octobre 93.
Ou Anne Virgiu dans un autre domaine. Effectivement, comment au bout du compte, ces femmes qui étaient un espoir pour la Révolution au tout départ vont être progressivement marginalisées par cette même révolution.
Bizarrement, elles le restent, parce qu'il ne faut pas oublier que la société dans l'Ancien Régime, c'est aussi une société massivement patriarcale. Bon. La Révolution installe une sorte d'espoir au début qui est vite trompé, parce que pour lutter contre les militantes en fait radicales, je pense aux citoyennes républicaines révolutionnaires, on ferme tous les clubs féminins fin octobre 93. Et à ce moment-là, on dit aux femmes, finalement, le bon moyen pour vous d'être citoyenne et pour changer les habitudes, c'est à vous qu'incombe en fait le rôle principal de la Révolution, c'est-à-dire changer la vie. Eh bien, c'est vous qui allez le faire dans vos familles. Et qui allait éduquer vos enfants, soutenir votre mari, etc. Alors évidemment, c'est une relégation dans l'espace domestique aussi, puisque on leur finalement ôte la possibilité de s'investir politiquement dans les clubs.
Déborah Cohen.
Mais cet espace domestique, en revanche, il est transfiguré quand même, puisqu'il faut quand même évoquer l'importance de la possibilité du divorce.
Oui, alors ça c'est nouveau.
C'est absolument nouveau. Et aussi du rapport entre les enfants, avec la reconnaissance des bâtards, la reconnaissance
la possibilité finalement de trouver une mobilité dans son statut social. Être reconnu, pouvoir changer de se démarier, puisque le divorce est autorisé, est institué plutôt.
Oui. Et on sait que une fois le divorce autorisé, c'est les femmes qui le demandent la plupart du temps.
Et ça, effectivement, c'est là quand la révolution, pourrait-on dire, entre dans les couples, entre dans les familles, entre presque dans la question dont les corps se comportent, pourrait-on dire, dans le quotidien, Guillaume Mazot.
Oui, c'est ce que Anne Verjus appelle le conjugalisme, c'est-à-dire que le couple est désormais considéré comme un acte contractuel entre deux individus consentants. Alors même s'il reste beaucoup de marques de domination masculine et de patriarcat, malgré tout, ça change quand même beaucoup de choses, en tout cas jusqu'en 1816, puisqu'à ce moment-là, le divorce est supprimé. Ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi la possibilité pour d'autres de s'inventer une vie plus libre. Je pense aux esclaves à partir de février 1794, dans les Antilles françaises, en tout cas dans la partie occidentale de Saint-Domingue, pour des raisons très pragmatiques, c'est-à-dire le fait de vouloir enrôler de nouveaux soldats pour lutter contre les Anglais, en particulier dans les Antilles, ils sont présents tout près, eh bien on libère les esclaves. Donc c'est complètement nouveau, bien avant 1848 et l'abolition de l'esclavage. Donc c'est... Je veux dire, la révolution, c'est aussi ça, c'est la possibilité de s'inventer de nouveaux statuts pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Les esclaves, et peut-être aussi dans une société d'ancien régime comme la société de la fin du XVIIIe siècle aussi, la question de la domesticité, de qui sert qui dans la société, et ça doit être très important. Vous qui avez travaillé sur la question du peuple, Déborah Cohen, est-ce que justement ce renversement des rôles sociaux, l'idée que on n'est plus forcément le serviteur d'un autre, etc., compte énormément dans la façon dont on se perçoit soi-même au quotidien dans cette société.
Le statut des domestiques reste assez compliqué pendant la Révolution française, puisque la première constitution ne leur reconnaît pas le droit de vote. Ils font partie des citoyens passifs au motif qu'ils n'auraient pas d'indépendance d'esprit. Ils voteraient forcément comme leur maître. Au moment du débat sur la, La Constitution de 93, en revanche, ça va être compliqué, mais le droit de voter va leur être reconnu, même si, de fait, ils ne voteront pas, puisque c'est une Constitution qui
n'aura pas d'effet immédiat, Guillaume Mazot, sur cette question.
Oui, non, cette question des domestiques, elle montre à quel point la révolution au quotidien apporte des promesses de long terme qui ne sont pas toujours tenues dans le court terme, hein, et pour des raisons aussi parfois idéologiques, parfois sociales, parce que c'est quand même la bourgeoisie qui prend le pouvoir dans la révolution, c'est sûr, mais aussi des raisons très pragmatiques, c'est-à-dire que faire tenir la révolution, c'est éviter le retour de la contre-révolution, c'est aussi éviter, pour ceux qui ont le pouvoir en majorité pendant cette période, éviter aussi la radicalisation trop importante de cette révolution, donc donner le pouvoir au peuple, évidemment, c'est compliqué, et donc au quotidien, il y a une certaine inertie, une certaine déception pour toute une catégorie.
Deborah Cohen.
De manière très brève, je pense qu'il y a la question des statuts et puis il y a la question justement de ce que les gens font au quotidien. Et ça, c'est important de voir que des gens qui n'ont pas le droit, théoriquement, d'intervenir politiquement, que ce soit les domestiques ou que ce soit les femmes, le prennent. Hein. C'est-à-dire que les femmes vont voter, par exemple, pour la Constitution, justement, de 93, alors qu'elles n'en ont pas théoriquement le droit. Les domestiques vont être nombreux dans les rues et dans les revendications.
Merci beaucoup. Vous avez montré, Guillaume Mazot et Deborah Cohen, que c'était un sujet très important, et non seulement très important, mais sur lequel il faudra qu'on revienne un jour, peut-être de façon beaucoup plus large, cette vie quotidienne pendant la Révolution française. Il y a de quoi raconter au moins 4 ou 5 émissions de La Fabrique de l'Histoire. Je rappelle, Deborah Cohen, que vous êtes auteur de La Nature du Peuple, les formes de l'imaginaire social, dans la collection La Chose Publique chez Champvallon. Et je rappelle, Guillaume Mazot, alors vous allez publier au printemps prochain des mémoires, dans la collection du Mercure de France. Voilà, le journal d'Adrien Duquesnoy. On peut suivre aussi le travail que vous avez mené avec le metteur en scène Joël Pommerat en allant voir partout où ça se donne, on le conseille, le Ça ira de Joël Pommerat, Anaïs Quin.
Et puis vous avez publié un article dans le dernier numéro de la revue Écrire l'Histoire, me semble-t-il.
Oui, sur cette expérience théâtrale. Voilà.
Et je cite également L'Iconoclasme, ce livre collectif publié lui aussi chez Champvallon. Cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère nous a accompagnés à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Nous poursuivons et terminons demain notre série d'émissions en réécoute consacrée à la Révolution française. Et demain, nous nous poserons une question simple. Quelle fut l'influence de cette même révolution, mais d'autres révolutions comme la Révolution américaine ou haïtienne, sur les grandes révolutions latino-américaines du début du 19e siècle ?